Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Étrange personnage que cette femme mutique qui, à l'encontre de toutes les femmes actuelles qui aspirent à l'autonomie, à l'égalité avec les hommes, à la participation, à la vie sociale, culturelle, intellectuelle, politique, n'aspire, elle, qu'à être rien. Étrange couple aussi, dont on se demande de quoi il est constitué, sur quelle base il repose. Étrange famille, enfin, dont le rejeton surdoué et parfois halluciné prie constamment pour que ses parents soient protégés. Et avec eux, nous arrivons aux États-Unis, dans une université, autre monde, autre mœurs. Ce roman passionnant qui conjugue réflexion sur l'apparence, sur la perception et le ressenti de chacun dans la sphère intime comme face aux événements sociaux. Et ce très beau et surprenant portrait de femme s'intitule « La chance de leur vie », édité aux éditions de l'Olivier. Et j'ai le grand plaisir de recevoir son auteur, Agnès de Sartre. Agnès de Sartre, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, je suis toujours ravie de vous recevoir. La porte vous est grande ouverte. Venez chaque année, pas de problème. Voilà, alors cette fois-ci, vous nous offrez un roman très dense. Je dois dire que j'ai l'impression qu'on progresse par touche avec vous, là, dans ce roman.
Oui.
Petit à petit, on apprend des choses. On dit, ah ben tiens, ça, c'est nouveau, on ne le savait pas. Et on doit recomposer la personne. Ça, c'est très intéressant. J'adore, moi, quand le lecteur a quelque chose à faire.
Ah. Bah, comme ça, il s'ennuie moins. Hein.
Non, voilà. Ce n'est pas ça. Mais je trouve qu'il y a une participation. En tout cas, il est multiple. Et puis, évidemment, il y a les différents thèmes abordés. Alors, histoire, je ne vais pas dire le pitch, hein, parce que vraiment, le mari on lui propose un poste de professeur dans une université américaine, il est, j'allais dire, au bord de la retraite, ce n'est pas très sympathique, il va prendre bientôt sa retraite, et il accepte avec enthousiasme, et il s'expatrie donc avec sa famille pour un certain temps aux États-Unis, pas très longtemps, un an ou deux. Hein. Voilà, alors le premier chapitre est essentiellement axé sur Sylvie, l'épouse d'Hector et la mère de Lester. Et alors, Agnès de Sartre, dites-moi, quel est ce personnage énigmatique, complexe, déconcertant et souvent totalement décalé, c'en est même jubilatoire à certains moments.
Bah, tant mieux, je suis contente que Sylvie ait trouvé grâce à vos yeux, parce qu'effectivement, ce n'est pas un personnage évident, ce n'est pas un personnage dans le vent, ce n'est pas le cliché de la femme actuelle, si tant est qu'il y en ait un. Et Sylvie, c'est un personnage qu'on pourrait dire en creux, et c'est peut-être ce qui est troublant, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est le personnage, on pourrait presque dire le personnage principal du roman, c'est par elle que tout passe, on voit à travers ses yeux, on comprend à travers ce qu'elle pense des choses, et en même temps, elle a une forme de retrait. Elle est toujours en retrait par rapport aux événements. Bon, alors, il se trouve qu'elle arrive, dès le début du roman, elle arrive dans un pays, c'est les États-Unis. Elle pense parler anglais, comme beaucoup de Français, d'ailleurs, pensent parler anglais jusqu'au jour où ils arrivent en Angleterre et aux États-Unis et où ils ne comprennent rien à ce qu'on leur dit. Et eux, quand ils parlent, personne ne comprend rien. Donc, elle a cet anglais-là, alors que son mari, lui, étant né en Angleterre, est bilingue et leur fils aussi. Donc, elle est mise à l'écart. Enfin, elle ne se sent pas à même de participer à cette vie américaine parce qu'il y a l'obstacle de la langue, mais aussi un obstacle culturel. Et il y a quelque chose de plus profond en elle qui est que, d'une manière générale, elle ne participe pas. Elle dit à un moment, à une question qui lui est posée par un collègue de son mari qui lui demande « Vous êtes dans quoi ? Ou êtes-vous professeur, vous aussi ?» Et elle répond, mais de manière un peu prise de court, ne sachant pas quoi dire, un peu étonnée par la question, elle dit « Moi, je ne suis rien », ce que vous disiez en ouverture, et ce qui peut être pour une phrase extraordinairement choquante, surtout dans une société qui est la nôtre, où il faut non seulement être quelque chose, mais faire quelque chose, et puis si possible être célèbre, et puis surtout être jeune, et puis surtout être beau, et puis en plus faire du sport, et puis etc. Enfin, voilà, on a tout un catalogue de choses qu'il faudrait absolument faire pour exister, et Sylvie ne prétend à rien de tout ça, elle est dans l'être pur. Ce qui est très déconcertant. Effectivement, c'est à contre-courant.
Oui, à contre-courant. Et d'une certaine manière, elle se met systématiquement en marge Donc, elle a un regard quand même sur les autres. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, j'ai cru que c'était une toute jeune femme. En fait, elle a 60 ans.
Oui. Oui. Mais maintenant, les femmes de 60 ans sont très jeunes, vous avez remarqué ?
Peut-être.
Et oui.
Et ultérieurement aussi, non ?
Aussi, oui. Oui, 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 oui. Les femmes restent très, très, très jeunes. On ne sait pas pourquoi.
De caractère, d'esprit, vous croyez ? Oui, peut-être.
S'il y a quelque chose qui a changé. Je dis ça en riant, mais en fait, je suis un peu sérieuse quand même quand je dis ça. C'est-à-dire que les âges ont énormément... se sont modifiés. Oui. Les chiffres sont restés les mêmes, mais on s'en rend bien compte quand on regarde, par exemple, des films ou des documents qui datent des années 50-60. À partir d'un certain âge, les femmes s'habillaient comme des grand-mères. Hein. Oui, c'est-à-dire, vous passez 40 ans, vous ressembliez à votre propre grand-mère. Et ça, ça paraît rien, c'est des petites choses, c'est des signes extérieurs. Mais... c'est comme ça a énormément évolué, comme ça a changé, comme les mœurs ont changé, comme les modes de vie ont changé, ça a transformé des choses. Et il se trouve aussi que Sylvie, qui a 60 ans, a un fils qu'elle a eu très tardivement, on comprend un peu plus pourquoi au cours du roman. Donc elle a un fils de 14 ans. Mmh. Et ayant un fils adolescent, c'est ça aussi qui fait que ça la tire vers une certaine jeunesse. C'est peut-être pour ça aussi ce sentiment.
Tout à fait. Et alors, il y a tellement de choses en elle que l'on découvre. Bon, elle est, c'est vrai qu'elle paraît fragile, elle est timide, la moindre rencontre la met dans tous ses états. Et elle est maladroite. Alors ça aussi, je trouve ça amusant. Elle est maladroite avec les gens, avec les objets, avec tout. Elle est maladroite.
Elle fonctionne pas très bien, Sylvie.
Oui.
c'est pas une personne fonctionnelle. Mais c'est pour moi, c'est surtout un angle de vue, en fait. Elle observe.
Oui, elle observe. Et puis, on peut chercher après, et c'est vrai que c'est peut-être la liberté du lecteur, de trouver des explications. Ce que j'ai aimé aussi, c'est son originalité. Parce qu'elle est particulièrement originale. Et ça, moi, ça m'intéresse. En ce sens que déjà, par rapport même aux tenues vestimentaires, même à sa manière d'être... s'en fout. Vraiment. Et dans ses réflexions, dans ses pensées, elle a des comparaisons, je ne sais pas, à un moment donné, la terre qu'elle travaille ressemble à la peau d'un nouveau-né. Enfin, bon, c'est pas un peu glauque, là, mais enfin, il y a des tas de comparaisons qui sont étonnantes, surprenantes, et qui font qu'on se dit, bon, finalement, c'est peut-être un peu de vous, cette originalité.
Ah, vous savez, les personnages, ils sont... il y a toujours un peu de moi dans tous les personnages, mais même dans son mari, il y a de moi, même dans son fils, il y a de moi.
Dans le mari, d'accord.
Ah, je suis désolée, ma chère Monique, mais...
on en parlera. Et alors, parce que... donc, cette maladresse qu'elle a... elle a une vie secrète, on sent qu'elle a une vie secrète. Vous savez, j'ai pensé à La Dentelière, ce film, et je me suis dit, elle aussi a une vie secrète, mais elle n'a pas les mots. Elle, on se demande si elle a les mots ou pas, mais on peut se l'expliquer, on en parlera ultérieurement. En revanche, cette volonté d'être transparente, alors vous dites, c'est une volonté.
La volonté d'être transparente, c'est-à-dire transparente pour Sylvie.
C'est-à-dire ne pas, que les gens ne s'occupent pas d'elle.
Oui, c'est une forme de liberté. C'est un personnage qui est extraordinairement libre puisque l'absence relative d'interaction, elle n'a pas de travail, on ne lui connaît pas d'amis. Elle est certes, elle vit en couple.
Elle n'a pas d'amis aussi, cette solitude, c'est
étonnant. Non, elle est seule. Ça lui donne une extraordinaire liberté. En vérité, c'est quelqu'un qui est une rêveuse. Et si on doit la définir, alors que justement, elle tente sans cesse d'échapper à la définition.
Absolument.
Mais c'est un crime presque de nos jours d'échapper à la définition, puisqu'on veut à toute force catégoriser les gens. Et d'ailleurs, les gens eux-mêmes réclament d'être catégorisés à cœur et à cri. Sylvie échappe totalement à la catégorie et c'est une forme de liberté qu'elle revendique et qui est un luxe. Peut-être que le seul adjectif ou le seul terme qui pourrait la définir, c'est que c'est une lectrice.
Oui, alors ça, on le sait vers la fin.
Ouais.
Eh oui, oui, oui. Mais, et alors, ça m'a fait rire parce que dans le fond, je me suis dit, bah, dans le fond, c'est un peu moi.
Ah bah, vous voyez.
Voilà, on se retrouve. Mais, et puis alors, elle aborde, elle réfléchit à des termes. C'est vous, d'ailleurs, qui les posez, ces thèmes. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Le problème de la ménopause.
Oui.
Dans les romans, on n'en parle jamais. Oh. Les femmes sont toujours fraîches et disposent, etc. Mmh. Or, c'est vrai que c'est un cap difficile à passer pour certaines.
Ouais.
De même que le vieillissement du corps aussi.
Oui.
Ça aussi, on n'en parle pas.
Non.
Hein? Ni des douleurs du corps. Non,
oui.
non, on n'en parle pas.
Oui.
Et ça, vous voyez, vous m'avez ouvert des horizons. Je ne vais pas me mettre à écrire, mais j'espère que...
Mais pour moi, c'était une sorte de revendication. Mais c'est une revendication littéraire aussi. C'est pas une revendication médicale.
Oui,
mais j'avais remarqué que c'était, et moi en tant qu'écrivain, ça m'intéresse d'aller dans des zones qui sont des zones de silence,
oui.
de parler de choses dont on ne parle pas. Et j'avais remarqué que non seulement en littérature, c'était complètement absent, ce passage d'âge chez la femme, alors qu'on a beaucoup de livres sur l'andropause, sur l'impuissance tardive liée à l'âge, etc., le corps, la perte de vigueur du corps des hommes, etc. Il y a toutes sortes de choses là-dessus et qui sont passionnantes. D'ailleurs, il y a des livres extrêmement beaux, que ce soit chez Romain Gary ou chez Philippe Roth,
oui,
enfin,
oui.
qui sont vraiment élevés au rang d'épic, de l'épopée du corps. Et donc, autant je trouvais qu'il y avait l'épopée du corps masculin, autant l'épopée du corps féminin est complètement silencieuse. C'est-à-dire que même la grossesse, même l'accouchement, tout ça, et alors d'autant plus la ménopause sur laquelle on n'écrit pas, mais dont on ne parle pas. Les femmes n'en parlent même pas entre elles. Les médecins n'en parlent,
c'était honteux.
Bah parce que, oui, ça devient, en fait, on perd un statut, on passe c'est ancré très fort et très rattaché au fait que la femme est faite pour enfanter et qu'une fois qu'elle ne peut plus enfanter, on pourrait la jeter éventuellement. Mmh. On pourrait envisager peut-être une poubelle à ce moment-là.
Mmh.
Et donc, il y a ça qui reste quand même en arrière-plan.
Oui.
Et les femmes elles-mêmes, sans du tout se le formuler, je pense, ressentent cette honte qu'elles ne pourraient même pas nommer, dont elles ne savent connaissent pas l'origine parfois, et même celles qui n'en ont pas particulièrement, se disent, il y a ce silence. Et moi, je voulais créer l'épique du corps féminin, l'épopée de la transformation. C'est pour ça que quand j'ai évoqué, dans les pages où j'évoque ces changements, j'ai fait extrêmement attention que la poétique soit à la hauteur, quoi, que ce soit décrit vraiment
oui.
comme une éruption volcanique ou comme un phénomène naturel remarquable, émouvant, très fort,
oui.
parce que c'est fort.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une revendication littéraire aussi.
Alors, il y a également des aspects. À un moment donné, d'ailleurs, c'est son mari, je crois, qui parle de son indifférence. Enfin, je ne sais pas.
Oui.
À un moment donné... à la page 179, mais avant cela, je voudrais dire aussi que ce qui m'a fait rire, encore,
oui.
c'est quand vous avez nommé son mari Hector, parce qu'elle dit « je suis la femme d'Hector
oui. ».
Et évidemment, on connaît, enfin peut-être pas la jeune classe, mais on connaît la chanson de Brassens.
Eh oui.
Alors, par curiosité, je suis allée chercher les paroles de Brassens.
Ah oui.
Vous la connaissez ?
Bien sûr que je la connais, cette chanson.
Vous permettez que je le dise à
Bien
nos auditeurs ?
Bien sûr.
En notre tour de Babel, laquelle est la plus belle, la plus aimable parmi les femmes de nos amis? Laquelle est notre vraie nounou, la petite sœur des pauvres de nous? Dans le guignon toujours présente, quelle est cette fée bienfaisante? La femme d'Hector. Mmh. La fée bienfaisante, c'est peut-être elle en particulier par rapport à un certain Yougoslave dont on pourra parler.
Oui, c'est vrai aussi. C'est aussi, j'avais cette chanson en arrière-plan parce que dans tous les couplets et puis le refrain qui est « c'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain,
oui.
pas la femme, mais c'est la femme d'Hector », il y a cette idée que c'est une femme à la fois libre et disponible. Et pour moi, c'était un peu un certain portrait de Sylvie. Cette façon d'être attentive aux autres sans être prisonnière de ses attachements. Ce qui est une position presque intenable qui ne pourrait pas exister.
Oui, oui.
Et pour moi, c'est pour ça que le fait qu'elle se décrive elle-même comme la femme d'Hector, moi j'avais toujours la chanson en arrière-plan. Alors il peut y avoir, bien sûr, et il y a cet équivoque dans le roman où à un moment, un personnage qui est un professeur pense, lui, à Racine. Et il pense à cette femme-là, d'Hector, hein, qui est le symbole de la fidélité. De la fidélité. Et qui est pas tout à fait, c'est assez drôle que, et à mon avis, Brassens, c'était pas du tout innocent là-dedans, qu'il ait choisi la femme d'Hector pour parler d'une femme qui était à la fois libre et disponible, on pourrait dire que...
Elle était légère.
Peut-être pas. Non, c'est marrant parce que dans cette chanson, justement, ce qui est beau,
c'est vrai.
C'est que sa disponibilité ne flirte pas avec... C'est pas une disponibilité
sexuelle.
Oui, c'est un autre, c'est presque maternel, c'est amical.
Oui, oui.
C'est aussi ça qui est très beau, c'est que c'est une femme amie. Et c'est très rare de voir ce genre de portrait. Donc moi, j'avais bien sûr, j'avais tout le temps dans la tête cette chanson-là, oui.
Alors, y a cela qui amuse. Et sa relation avec son mari est assez étonnante, parce qu'on a le sentiment qu'elle est très dépendante de lui et qu'elle elle lui accorde toute la place.
Oui.
Quelle place a-t-elle?
Je pense aussi que c'est une des conditions de sa liberté. Moi, je le vois comme ça, comme un... Quand quelqu'un prend toute la place, c'est très aisé de se cacher derrière. Et d'une certaine manière, elle est à l'abri des regards. C'est aussi ce qui lui permet d'être l'originale qu'elle est. Vous l'avez décrite comme une originale. Et c'est pas évident d'habiter le monde en tant qu'originale. On peut être pris à partie, on peut être bousculé, on peut être, etc. Alors que là, elle a pris le parti de vivre... on pourrait dire à l'ombre de son mari, mais pour elle, cette ombre, c'est un refuge tout à fait bienfaisant. C'est ce qui lui permet d'être exactement ce qu'elle est, comme elle est, quand elle veut, comme elle veut. Et c'est un recours.
C'est un recours, et en même temps, ce qui est étonnant, elle est à la fois, elle paraît très dépendante, elle n'a pas peur de le perdre. On ne va pas raconter tout, évidemment, hein, mais c'est vrai qu'il est assez sollicité, ce dénommé Hector, et elle a une forme d'assurance ou de résignation.
Oui, alors, je ne sais pas si on pourrait dire une résignation. Je ne crois pas que ce soit de la résignation. Et par rapport aux conquêtes, parce que c'est ce qui se passe, en fait, hein, Hector... est un soixantenaire fringant, et puis il arrive, c'est le français, professeur de philosophie,
de
poète,
poésie,
qui débarque sur le campus. Il est forcément assez courtisé, et il a beaucoup de succès, et elle regarde ça avec une certaine, je dirais pas résignation, elle a énormément de curiosité. Je crois que c'est surtout ça le mot, peut-être.
Alors,
la curiosité.
Je vous cite,
oui.
Alors effectivement, vous utilisez le mot curieux, vous dites amusé,
oui.
Touché, curieuse.
Oui.
Amusée.
Oui, amusée aussi. Il y a une scène en particulier où un professeur de la faculté l'invite, elle, à voir une scène à laquelle elle ne devrait pas assister, qui est une rencontre amoureuse entre son mari et une jeune professeure d'Espagne, de littérature espagnole. Et c'est ce couple illicite est dans un café en pleine forêt et elle les voit s'embrasser. Et au lieu d'être d'en concevoir une angoisse terrible ou une peine atroce, elle est amusée. Elle se dit « Oh, c'est comme ça qu'embrasse mon mari quand il ne m'embrasse pas moi. » Elle le voit, il est soudain exotique, mais c'est son mari, il lui appartient quand même. Elle le voit faire quelque chose de différent, auquel elle ne s'attendait pas. Elle se dit « Tiens, c'est amusant. » Et elle est curieuse de voir comment il est quand il est avec cette autre femme. Il n'y a rien d'obscène, c'est à peine érotique. Et elle a cette comment dire, mais c'est aussi quelque chose qui est présent dans dans cette chanson de Brassens, c'est-à-dire une sorte de circulation possible du désir sans horreur, sans morale écrasante, sans prendre ça tellement au sérieux, tellement avec gravité.
Dramatiquement,
d'une certaine manière, elle est, je dirais peut-être pas résignée, mais sage. Et elle possède une sorte de tranquillité, on pourrait dire, une tranquillité.
Elle dit comment ne pas déformer le drap du temps.
Oui, ça c'est peut-être la seule chose pour laquelle elle est déterminée. Elle est déterminée à ne pas abîmer le monde par sa présence.
Voilà, Agnès de Sartre, moi, on cherche des explications. On s'amuse même à trouver des explications. Et sans faire de psychanalyse sauvage, est-ce qu'il y a quand même un semblant d'explication? Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle vient d'un milieu très modeste. Et son mari, pas. Bon, et déjà, c'est pas toujours facile, je pense.
Oui, c'est une mésalliance.
Et en plus, elle a une belle-mère. On pourra parler d'ailleurs de ce milieu qu'elle décrit et dont on retrouve le pendant aux États-Unis, finalement. Il y a une forme d'humiliation de la part de la belle-mère qu'elle entend au téléphone.
Oui.
Il y a des propos très durs. On apprendra plus tard qu'il s'est passé un événement douloureux. Est-ce que tout cela ne fait pas que elle s'est un peu mise en retrait pour ne pas souffrir?
Il y a de ça, il y a de ça très certainement, mais il y a aussi un retournement de situation qu'on peut envisager, puisque sa façon d'être, par sa façon d'être, cette tranquillité, cette façon d'être inatteignable pratiquement,
oui.
Elle prend le pouvoir, elle prend un ascendant incroyable. Par exemple, son mari, qui est découvert dans son infidélité, est stupéfié par le calme avec lequel elle prend les choses.
Il reproche d'être froide.
Oui, il est vexé. Et c'est lui qui est humilié,
oui,
finalement.
Oui.
Parce que c'est comme... Il dit, mais alors ça ne te fait rien. C'est terrible, tu ne m'aimes pas.
Elle ne veut pas s'abaisser à la jalousie.
Voilà, et c'est ça. Et c'est une forme de revanche, de la même manière que socialement, vu qu'elle vient d'un milieu extrêmement différent de celui de son mari, un milieu... plutôt à la fois rurale et pauvre, alors que son mari, c'est urbain et riche, elle réussit, par cette attitude qu'on pourrait penser passive, à renverser les choses et à être plus puissante avec ses armes à elle.
C'est ce que dira ultérieurement son mari. Finalement, on va pouvoir se poser la question aussi de l'équilibre dans le couple. Il y a les apparences,
oui,
et puis
oui,
il y a ce qu'il y a derrière.
Oui.
Agnès de Sartre, je vous propose une pause musicale. Alors, à la demande générale, il s'agit des Bee Gees et c'est un morceau qui est magnifique.
Merci.
Touch me in pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Breaking up.
me you need to show. How deep is your love?
Deep is your love. How deep is your love? I really need to know. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they
d'auteur Monique Fauché.
Nous reprenons notre entretien avec Agnès de Sarthe sur un très beau roman. Alors là, je conseille à nos auditeurs, c'est un livre dense, mais justement, l'été, on est plus libre, on a le temps, on peut le lire tranquillement. Il s'agit de La chance de leur vie, édité chez aux éditions de l'Olivier. La chance de leur vie. On va voir, est-ce que ça a été une chance, une malchance? Moi, je crois que ça a été leur chance, oui. On en parlera peut-être à la fin, j'espère D'accord. qu'on aura le temps. Alors, on parle aussi, toujours un petit peu de Sylvie, parce que c'est un personnage fascinant. C'est une princesse. Alors, pour son fils, on croit que c'est la grand-mère. Pour son mari, c'est un bébé. Elle est intemporelle.
Oui, elle n'a pas d'âge. Parce qu'il y a quelque chose aussi, pour moi, qui était chez Sylvie, qui était l'essence du féminin. C'est-à-dire le féminin éternel, le féminin qui se retrouve aussi bien chez une petite fille que chez une dame âgée, que chez une femme mûre ou chez une femme jeune. Et selon les gens qui la regardent, effectivement, elle change, puisqu'elle est, son mari, il est très grand, elle est toute petite par rapport à lui. Et puis, d'une certaine manière, il la domine de plein de manières, de plein de façons. Et donc, pour lui, il la considère comme son bébé. Comme elle est assez âgée par rapport à son fils qui a 14 ans, elle a 60 ans, les gens pensent qu'elle est la grand-mère de son fils. Effectivement, elle change sans arrêt d'âge et elle-même, elle n'en a pas vraiment d'âge. Elle-même, elle est toujours en train de se remettre en question, de se demander « mais qui suis-je au fond ? Pourquoi suis-je faite ? Est-ce que je me connaîtrai ? Est-ce qu'à la fin de ma vie, je me connaîtrai enfin ? Je ne sais pas qui je suis. » Elle est toujours dans cette hésitation.
Je trouve que ce qui est formidable, c'est que vous arrivez à nous montrer son monde intérieur. Parce qu'elle se pose des questions sur elle et puis sur les autres qu'elle observe. Et à un moment donné, elle fait un portrait de ces femmes qui sont qui sont dans le vent. Moi, j'aimerais bien que vous lisiez
ce portrait. Ah oui, avec plaisir.
Alors, c'est à la page 85. Il y a une petite croix au début et puis une petite croix. Bon, c'est juste à...
Très bien. Hop. Elle a croisé certaines de ces femmes durant les 2 mois qu'ils ont déjà passés ici, au supermarché, sur le campus, en forêt. Elle les a vues en jogging, les cuisses quelque peu boudinées par le tissu trop fin qui laisse apparaître le relief attendrissant de la cellulite. Elle les a vues, les yeux cernés, conduisant une poussette chargée de paquets, résonnant inlassablement un enfant en pleurs pendu au bout de leurs bras. Elle les a vues, les cheveux décoiffés, se cachant pour fumer une cigarette entre deux courses, les épaules basses sous le poids de leur cartable bourré de copies, de livres et du reste. Elles sont jeunes et épuisées, enlaidies par la fatigue et l'hybridation inextricable de leur vie. Biberons et stylos, carrés de coton et blocs de papier lignés, listes de courses et copies à corriger, diaphragmes et figurines en plastique, cartons d'invitation à un anniversaire et permis de conduire, parfums aphrodisiaques et liniments pour fesses fragiles, vitamines pour la repousse des cheveux et compotes sans sucre ajouté, édition bilingue de poésie du Moyen-Âge et catalogue de jeux éducatifs, mascara et feutre à paillettes, timbre poste et autocollants de super-héros. Plonger la main dans leur sac provoque l'écœurement ou le fou rire. On en sort n'importe quoi. on y trouve de tout. Pansements, pinces à ongles, caramels ayant perdu leur emballage et constellés de grains de sable et de filaments de poussière, gélules, élastiques, dinosaures ou un centième, tampons, miettes, agitateurs de boissons à motif de sirène, fragments de pâte à modeler, baume pour les lèvres, sans capuchon, leur sac, leur vie, leur personnalité, leur joie, leur croix, leur condition.
Ça, Agnès de Sartre, c'est du vécu.
C'est peut-être le vôtre, Monique.
Peut-être bien aussi.
Mais le sac d'une femme.
Oh, oui. Mais je dois avouer que j'ai retrouvé des bonbons collés sur mon carnet de chèques récemment.
Voilà, hein, vous voyez.
Alors, on parle. Mais je disais cette originalité qu'elle a dans la manière de voir même les objets. D'abord, on apprend qu'il y a une jupe qui l'a aidé oui. à se libérer.
Oui, tout à fait. La fameuse jupe en daim à bouton pression.
Voilà. Oui. Et alors, ça m'a fait rire parce qu'il y a un film qui est en train de sortir sur une veste en daim. Oui. C'est Jean Dujardin qui, je crois, qui porte cette veste en daim oui. avec des franges. Elle est atroce. Oui. Mais il paraît que le film est très bon.
C'est le grand retour des années 70. Ça, on n'y échappe pas. Les Bee Gees, les jupes en daim.
Voilà. Et puis, il y a des remarques, par exemple, par rapport au sac, justement, réservoir de vie, mais peut-être une autre forme de servilité. Mais enfin, comment s'en détacher quand il y a une ribambelle d'enfants? En revanche, elle prône, elle, la pochette qu'elle faisait symbole d'émancipation. Ça, c'est
oui,
très drôle aussi.
Parce que c'est aussi des réflexions qu'elle se fait. Elle dit, à la fin de cette description, on apprend que Sylvie n'a pas de sac à main, elle. Mmh. Elle n'en a pas. Elle met les choses dans ses poches.
Je connais quelqu'un
voilà.
qui fonctionne comme
elle
ça.
Elle a des poches et donc elle s'est émancipée d'une certaine manière de ce sac à tout faire.
Ouais.
Alors, est-ce qu'elle est encore une femme si elle n'a plus de sac de femme? Grande question. Et elle repense à la pochette, on appelait ça la pochette, qu'elle cousait, qu'on fabriquait soi-même. Et pareil, c'est un souvenir des années 70. Une petite pochette qu'on avait autour du cou.
En général, en tissu Liberty.
Ça pouvait être en tissu Liberty. Il y en avait certaines qui étaient en cuir ou en daim, plus dur à coudre, mais on pouvait faire avec des poinçons. Ou c'était des tissus indiens. Il y avait toutes sortes. Il y avait juste une cordelette, on attachait ça autour du cou. Et elle se dit, quand même, est-ce qu'on n'a pas perdu avec toutes ces années où maintenant les sacs des femmes sont énormes, alors qu'à l'époque où on n'avait qu'une pochette avec une cigarette, un briquet et peut-être un crayon de colle dedans, on pouvait rien faire, on servait à rien avec notre sac, alors que là on peut sauver la planète pratiquement avec le contenu d'un sac à main de femme.
Et elle dit, c'est dans cette aliénation que se déploie sa liberté.
Oui, hein? Alors c'est ça qui est... Oui, c'est paradoxal.
Oui, voilà. Alors... En fait, ce qui m'a frappée, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas dans quelle partie, peut-être vers la fin du livre, elle dit une phrase qui pour moi est sibylline. J'attends de trouver une action dans laquelle je serai conditionnel, parfaitement moi.
Oui.
Donc, c'est qu'il y a une entrave.
Oui, elle est, mais elle ne s'illustre pas dans le faire. Elle ne fait rien. Mais parce qu'elle ne trouve rien à faire qui lui ressemble vraiment. Alors, il y a un moment quand même de révélation de ce point de vue-là, oui. C'est quand elle commence à pratiquer la céramique
et le travail de la terre.
C'est
très drôle, hein.
Oui, elle est très maladroite, donc vous imaginez ce que ça peut donner avec un tour de potier et de l'argile, c'est pas très... Mais dans la fabrication... Il y a un moment, elle vit des moments de transe où dans la fabrication de ces objets en céramique, peut-être elle trouve enfin la manière de faire quelque chose dans lequel elle est entièrement elle-même. Mmh. Et d'ailleurs, ces objets sont extrêmement déroutants pour les autres.
Oui, alors il y en a qui les trouvent atroces,
oui.
D'autres qui sont séduits.
Totalement, oui.
Y compris le marchand de légumes. Bon, alors passons à son mari qui est moins original, mais quand même... énigmatique par certains côtés.
Mmh.
Alors lui, il est proche de la retraite. Et on le sait, chez les hommes, ça signifie angoisse.
Oui.
En règle générale. Et je pense qu'il y a de ça là-dessus.
Oui.
Et il découvre sa capacité de charmer et il en profite. Mais enfin, ça y est, c'est un renouveau de jeunesse.
Oui.
Bon. Mais alors, il est positif, il est protecteur, il est affable. Il ne critique jamais son épouse. C'est trop beau pour être vrai.
En même temps, il lui est pas non plus très fidèle. Enfin, il a des compensations. Hein. C'est pas un homme parfait.
Il lui trouve toujours des excuses.
Ah, parce qu'en fait, je crois que tout simplement, c'est pas une personnalité forcément facile, mais je crois qu'il est réellement fasciné par cette femme. Il est fasciné parce qu'elle a l'air d'avoir besoin de rien. C'est ça qui le fascine. C'est-à-dire que lui, il est dans l'action, il est dans la performance.
Il écrit des articles,
il lui demande toujours ce qu'elle pense de ses articles. Elle dit, écoute, moi, je comprends rien à la philo, pourquoi tu me donnes ces articles-là? Mais lui, il attend toujours son assentiment. Et il se force pas tellement. En fait, il lui trouve pas particulièrement d'excuses. C'est juste qu'elle lui convient telle qu'elle est dans son énorme, immense oisiveté. Et c'est un peu une sorte de, comment dire, les tractations qui ont lieu dans les couples sont toujours extraordinairement mystérieuses. Pourquoi les gens s'assemblent et pourquoi ils restent ensemble alors que c'est si compliqué un couple, c'est si difficile de vivre avec quelqu'un. Oui. Surtout un homme avec une femme, c'est vraiment pas fait pour aller ensemble, ils ne se comprennent pas, les hommes ne savent pas où sont leurs chaussettes, ils laissent les placards ouverts, enfin c'est très fatigant. Et on est obligé de supporter ça pendant toute une vie. Bon. Et eux, on n'aurait sûrement pas autant à notre service. Et pourtant, on continue quand même, plus ou moins, avec des aménagements, mais de vivre, on essaye en tout cas de vivre en couple. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne?
Est-ce qu'il n'a pas besoin d'exercer une forme de pouvoir quand même?
Si, bien sûr. Hein? Ça fait aussi partie, c'est pour ça que c'est leur tractation, c'est-à-dire que dans leur commerce, il y a aussi le fait que cette femme ne lui fait aucune concurrence.
Oui. Et alors, il y a quelque chose, parce qu'il voit cette inertie un peu comme une menace, et à un moment donné, à la page 109 très exactement, ça m'a... Ah vraiment, je me suis dit, oh, ça c'est très intéressant sur l'explication, parce qu'il s'interroge, quel a été mon rôle dans sa vie à elle. Vous vous en souvenez peut-être plus.
Non, plus du tout, c'est étrange, c'est une phrase tellement énigmatique, elle est même énigmatique pour moi.
Alors,
il se demande quel rôle il a eu, lui,
attendez,
dans sa vie. On sait que c'est page 109, déjà, ça nous aide.
Oui, comme vous dites. La Sylvie sauvage et compagnarde d'avant leur rencontre, celle qui se débrouille seule et savait tout faire avant qu'il ne se mette à commenter chacun de ses gestes, au point qu'elle était... au point qu'elle était devenue cette étrange manchotte pourvue de mains, une femme inutile, inactive, illustration vivante du dogme taoïste du non-agir. Quel repos c'est, mais quel regret parfois proche de l'épouvante. Est-ce un crime qu'il a commis? Elle avait semblé si consentante, réclamant presque l'amputation, comme si ses jeunes années d'efficacité l'avaient épuisée pour le restant de ses jours.
Oui. Alors, voyez, c'était... La phrase que vous avez citée était...
Oui, légèrement biaisée.
c'est pour ça que je n'ai pas tout à fait reconnu, mais bon, c'est une interprétation. Parce que quand vous disiez qu'il ne critique, il ne la critique pas, en vérité, il refait... Enfin, si elle plie un vêtement, il le replie derrière elle. Il trouve qu'elle fait tout mal. Et s'il ne lui dit pas explicitement, en tout cas, il le lui fait sentir, puisqu'il recommence après elle ce qu'elle a fait. Et c'est là que ça devient explicite, dans cette séquence où il revient sur la femme qu'il a rencontrée et, entre guillemets, ce qu'il en a fait. Mais parce que ça aussi, ça fait partie des choses que j'aborde dans le livre, c'est qu'est-ce qu'on fait subir à notre partenaire quand on reste en couple un certain temps.
Et est-ce qu'il n'y a pas, on ne se modèle pas l'un l'autre?
Est-ce qu'on ne se rabote pas aussi? Est-ce qu'on ne s'émousse pas l'un l'autre? C'est-à-dire qu'à force de faire certaines choses à la place de l'autre, on le rend manchot, puisqu'il n'a plus besoin de faire ses actions puisqu'on les fait à sa place. Ça se passe par exemple parfois dans les couples où les deux conduisent. Mais par exemple, c'est toujours monsieur qui conduit ou c'est toujours madame. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Mais bon, c'est des partages comme ça qui se font de manière précoce et qui sont entérinés, on ne sait pas très bien comment, et qui font que l'autre est diminué dans certaines de ses capacités. Et ça, c'est une chose étrange que le couple peut faire aux individus qui le composent. Et donc, il a un moment, d'une certaine manière, Hector, un moment d'illumination où il regarde sa femme comme s'il ne la connaissait pas, il la redécouvre, il pense à la femme qu'elle était quand il l'a connue et il se dit « mais qu'est-ce que je lui ai fait ?» Est-ce que j'ai abîmé cette femme?
C'est ça.
Oui, c'est ça la question qui se pose.
Oui, c'est très intéressant aussi. Et puis, il n'est quand même pas dénué d'une forme d'humour. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très drôle. À un moment donné, il dit « Il faut laisser les enfants se dépatouiller avec la métaphysique. C'est privé. C'est comme les caleçons. » Bon.
Pour un prof de philo, vous avouerez
oui,
que c'est une réplique étonnante.
Et poète, de surcroît. Voilà, alors évidemment, par lui, on parlera, j'espère qu'on aura le temps de parler de leur fils, parce que lui aussi est très intéressant. Par lui, on entre sur le campus. Alors là, c'est très drôle. Évidemment, on a lu des auteurs anglais et américains qui parlent des campus. Je ne parlerai pas que de Virginia Woolf, mais enfin, il y en a bien d'autres encore. C'est un milieu que l'on connaît, que je connais, un milieu clos. Parfois, c'est satisfait. C'est une société in. Là, ils sont dans la, à un moment donné. On a l'impression que c'est une pièce de théâtre assez codifiée, finalement. Quand ils se rencontrent, quand les gens se rencontrent. Mais on sait qu'il y a une émulation, même une rivalité. Et puis, une forme d'indifférence aux autres. Alors ça, c'est un campus américain.
Oui.
Où les gens se rencontrent bien davantage encore que
bien sûr.
Dans les universités françaises.
Oui, ça, ouais. C'est même difficilement comparable et difficilement imaginable, si on ne connaît que l'université française, simplement par le fait qu'il y a un lieu.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un lieu,
fermé.
Il y a des lieux. Oui. C'est un lieu clos, avec plusieurs lieux à l'intérieur et qui ont tous une fonction. Il y a des salles de réunion, des salles de détente, des bibliothèques ouvertes 24 heures sur 24. Les professeurs ont des bureaux dans lesquels ils peuvent inviter d'autres professeurs. Enfin, tout ça est très est beaucoup plus convivial.
C'est une ville dans
et c'est
une
voilà et c'est un monde, c'est un monde dans un monde. On commence parfois à l'avoir dans certaines universités en France, mais c'est pas du tout installé autant que ça l'est aux États-Unis.
Oui, en France, les étudiants sont quand même plus dans la ville,
Mélangé. Ça entre et ça sort de l'université, alors que là, c'était vraiment un monde dans le monde. Et là, y a, moi, ce qui m'amusait, c'était de faire arriver Hector, qui est un, comme je le dis à un moment, peut-être un des derniers exemplaires du mal alpha, et de jouer avec des universitaires américaines et de voir comment ces femmes, telles des... Je les compare à des archéologues, seraient tout excités d'avoir retrouvé le dernier spécimen du mâle alpha, parce qu'elles ont réussi à dégommer tous les mâles alpha qui les entouraient, à les réduire au silence, à l'apathie, à tout ce qu'on voudra.
Mais il en reste un.
Il est
et
là,
elle papille,
il est français, et alors là, tout à coup, au lieu de dire « Ah, mais c'est affreux, on va le mettre à mort », c'est quand même le dernier, alors elles en prennent soin.
Voilà, oui. Voilà. Et ça, il y a des passages très drôles. Et puis, il y a la colonie des expats, alors là aussi, c'est très intéressant, un monde en soi, là également, des gens qui sont hors du monde, ils sont impliqués ni dans la vie française, et pour cause, mais pas vraiment non plus dans la vie du pays où ils se trouvent.
Oui.
À tout point de vue. Et ça, c'est également très intéressant. Alors, là, pour le coup, c'est Sylvie qui va essayer de connaître un peu des expats par l'atelier de poterie. Bon, c'est drôle, c'est moqueur, on s'amuse beaucoup. Et ne jamais oublier la fonction oraculaire de la céramique.
Ouais, jamais.
Oui, jamais. Voilà. À un moment donné, oui, je parle d'humour, effectivement, mais à bien des moments, il y a également un psy dans l'atelier.
Oui.
Et à ce moment-là, elle décide de la fuir.
Oui, elle est extrêmement menaçante, cette psychanalyste dans l'atelier de poterie.
Oui.
Oui.
Alors, et puis il y a une apprentie potière qui repart en disant « Quoi que je fasse, je n'y peux rien. J'essaie de reproduire le visage de Raymond et chaque fois, il ressemble à ma mère. »
Et Raymond étant son défunt mari.
Voilà.
Ouais, ouais. C'est ça la vertu oraculaire de la Terre.
Voilà, exactement. Ouais. Voilà, donc... On rencontre ces différentes personnes. Et venons-en à leur fils, Lester, donc fils unique, un surdoué, précoce, qui comprend tout. Alors, il est extrêmement sensible, il a un pouvoir d'empathie. Et il y a une forme d'incantation chez lui qui est récurrente.
Oui.
Protéger mes parents.
Oui. Alors, Lester peut-être est précoce, peut-être est-il surdoué, mais il passe beaucoup de temps à se faire passer pour un imbécile quand même. C'est sa activité principale pratiquement.
Mais il faut être doué pour ça.
Eh oui, Et tout à fait. Et puis, il faut avoir un enjeu. Après tout, pourquoi se faire passer pour plus bête qu'on est? Ne pas avouer les lectures. Il n'avoue pas à sa mère les lectures qu'il fait et elle est très soupçonneuse. Elle le soupçonne d'avoir lu Saint-Augustin, ce qu'il a peut-être fait, on n'en est pas sûr, d'avoir lu Faulkner, d'avoir... Voilà.
Et même d'écouter des musiques de Bach, je crois.
Oui, à un moment, elle l'entend fredonner du Jean-Sébastien Bach. Elle lui dit, elle reconnaît ça parce qu'elle le chantait à la chorale quand elle était petite. Elle dit, qu'est-ce que c'est que cette musique? Il dit, non, pas du tout, c'est le générique d'un dessin animé. Oui. Enfin, bref, il a toujours des réponses pour se faire passer pour un abruti. Et donc, il se protège, lui aussi, comme sa mère se protège d'une certaine façon du monde. Et il demande toujours à Dieu, puisqu'il s'adresse, il a une incantation, il a un rapport extrêmement privilégié, très mystique et très inspiré d'Augustin. Un rapport de tutoiement, de côtoiement et d'intimité avec Dieu. Et il lui parle. Alors, il lui demande des choses. Il lui déclare son affection. Mais surtout, la principale chose qu'il lui demande, c'est de protéger ses parents.
Et il se fait appeler, il souhaite qu'on l'appelle Absalom, Absalom. Alors, je suis allée voir, mais c'est un personnage horrible, Absalom. Quelle drôle d'idée.
Mais oui. Mais parce que c'est de la même manière qu'il se fait passer pour un imbécile, c'est-à-dire qu'il n'est pas, lui aussi, c'est un être qui est à contre-courant.
C'est-à-dire les gens à contre-pied.
Oui, ouais. et qui ne veut pas être dans la glorification, qui ne veut pas être dans l'excès de réussite. Dans lequel il pourrait tout à fait être, puisqu'il est effectivement très intelligent, qu'il s'intéresse à des tas de choses, qu'il a lu énormément. Mais il y a une sorte d'obsession de la contre-performance chez lui.
Alors, on voit, on devine et on le voit que c'est un jeune enfant, enfin un adolescent très sensible et qui prend conscience du mal et de l'indifférence, de l'égoïsme des gens. Ça, c'est à partir du moment, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, quand ils sont aux États-Unis, il y a les tueries du Bataclan et du café à côté. Il dit à sa mère, tu es comme moi, en fait, tu fais semblant de ne pas savoir, mais tu sais.
Mmh. Oui.
Ils ont peut-être, en effet, une faculté,
Parce que c'est aussi, quand il dit ça, il lui dit ça à un moment où elle lui parle de... en fait, lui se livre à des activités assez étranges avec toute une troupe d'enfants, d'adolescents, plus ou moins grands, plus ou moins étranges, plus ou moins patraques, qu'il recueille autour de lui. Et ils se réunissent, surtout, ils se réunissent pour parler, mais aussi avec des incantations, enfin il y a quelque chose de mystique, ce sont des rencontres mystiques. Et il fait passer ça pour du théâtre, lui. Il dit que c'est du théâtre. Et quand il en parle à sa mère en lui disant qu'il joue Ariel, elle lui dit, tiens Ariel, c'est étrange, pourquoi on vous fait travailler la tempête? J'aurais mieux vu le songe d'une nuit d'été pour des adolescents. Et à ce moment-là, c'est là qu'il lui dit, tu es comme moi finalement, tu dis que tu ne connais rien, mais tu connais tout. Parce que ça va être jamais quelqu'un qui va prendre la parole, Sylvie, pour parler de Shakespeare, par exemple. Mais là, elle l'apprend avec son fils.
Alors, on n'aura pas le temps de parler d'autres personnages. Enfin, il y a Zlatan, effectivement, un jeune homme venu de Yougoslavie. On ne parlera pas des événements qui s'inscrivent, des événements politiques. Bientôt, Trump, il y a d'ailleurs une femme supporter qui en parle. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça a été la chance de leur vie?
Alors, ça dépend qui est leur. Parce que d'une certaine manière, la chance de leur vie pour cette famille, c'est de partir, de quitter la France au moment où la France est un pays marqué, blessé, meurtri, et où il y a une grande violence qui se déploie, puisque c'est l'année 2015. La chance de leur vie, parce que Sylvie peut-être trouve enfin une activité dans laquelle elle peut se déployer entièrement en tant qu'elle-même, même si elle l'abandonne pratiquement aussitôt qu'elle l'a commencé à la pratiquer.
Bien
on
obligé.
Ne sait pas, oui. Mais peut-être aussi qu'on peut voir de se retourner. Bon, pour Hector, ça a été la chance de découvrir les merveilleuses, sa merveilleuse séduction complètement insu. Et pour Lester, peut-être que Lester a été la chance de la vie de certains enfants qu'il a rencontrés. Parce qu'il y a chez lui une forme d'aura presque de sauveur. Hein. Le mot est... je l'emprunte volontairement à la religion, mais il y a quelque chose de cet ordre-là chez lui. Mmh. Et sa mère, au début du livre, se dit « Est-ce que mon fils est un saint ?» Et elle se moque d'elle-même en disant bah, « C'est malin, c'est juste un adolescent complexé, mais tu préfères dire le mot saint, Saint Lester. » Et elle se moque d'elle-même. Sauf qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un parcours de sainteté chez cet adolescent.
Absolument. En fait, ils sont tous plus ou moins révélés à eux-mêmes.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et lui et Lester révèlent aussi... Pour moi, peut-être que ceux qui ont le plus de chance, ce sont ces enfants qui ont été en contact de Lester.
Oui, tout à fait. Voilà. Alors, nous allons dire à nos auditeurs qu'il suffit qu'ils lisent Agnès de Sarthe, La chance de leur vie, un roman édité aux éditions de L'Olivier. En tout cas, un grand merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci.
Depuis votre
merci
Normandie.
À vous.